Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Alpa pour ce nouveau numéro de votre mag du rétro gaming. On est bien sur le 107.3 FM au Mans et sur radioalpa.com bien sûr si vous le souhaitez. Au sommaire de ce numéro 2, les news de l'actualité rétro gaming bien sûr comme tous les 15 jours. Le dossier pratique cette semaine, on va voir comment jouer aux anciens jeux sur PC avec des machines actuelles. On découvrira ensuite un nouveau morceau avec The Singer, c'est The Other Days qui sera là pour nous le jouer. Et justement, The Other Days, on les recevra juste après pour découvrir leur univers de création musicale. On terminera enfin avec le Rétro Dico. Le Rétro Dico, vous le savez, c'est comment comprendre le rétro gaming en 45 secondes, un mot tous les 15 jours. Et aujourd'hui, on va parler du mot cartouche, mais tout de suite, c'est les news. Allez, on commence ces news avec Commodore. Et oui, Commodore qui était un constructeur surtout connu pour ses micro-ordinateurs grand public, comme le Commodore 64 ou encore l'Amiga, concurrent d'Atari pour les machines 16 bits. Mais peu connaissent le VIC-20. Eh oui, le MIC-20 est un micro-ordinateur sorti en 1980 qui s'est vendu tout de même à quelques 2 500 000 exemplaires dans le monde. Eh bien, il y a encore des férus de programmation qui développent des jeux sur cette machine de plus de 30 ans. Le dernier en date est Levi's Maze. Dans ce jeu, vous dirigez dans un labyrinthe un carré rouge devant aller trouver la sortie tout en évitant les carrés noirs. C'est simple, en effet, évidemment, graphiquement, c'est du matériel qui a 30 ans, mais le jeu est vraiment drôle à jouer. Allez, maintenant, c'est les aficionados des salles d'arcade qui connaissent bien évidemment la Neo Geo. Cette bête de guerre, sortie au début des années 90, a fait rêver de nombreux joueurs avec des séries comme Metal Slug, Fatal Fury ou King of Fighters. Bien entendu, une telle machine ne tombera jamais dans l'oubli et de nombreux studios développent sur la machine de SNK. Le dernier en date est le studio Neobits qui a mis en précommande son jeu, Night Chance. Mais seulement pour les plus fortunés, en effet, comptez $299 pour la cartouche seule et $469 pour la version collector. À noter que le studio NG Dev Team a lui mis aussi en précommande leur prochain shoot'em up qui s'appelle Neo XYZ au prix de €399 pour la version cartouche Neo Geo. Les bourses moins fortunées pourront jouer avec la version Dreamcast qui est la même sauf le prix, €34. C'est déjà beaucoup plus abordable. Sachez-le, ces jeux seront disponibles pour être sous le sapin de Noël. Enfin, le 4 décembre sort l'ouvrage consacré à Zelda. Enfin, parce qu'il a mis un peu de temps à sortir. Alors ce livre a pour but tout simplement d'expliquer la saga qui compte tout de même 15 titres et bientôt 16 avec le prochain opus A Link Between Worlds prévu sur la 3DS. L'ouvrage totalise tout de même 274 pages et inclut un manga de 32 pages sur Skyward Sword, le dernier titre sorti sur Wii. Cette bible sur la saga Zelda est bien entendu disponible en précommande, dépêchez-vous, sur de nombreux sites de vente en ligne pour une trentaine d'euros. A noter que cet ouvrage est traduit par Florent Gorge des éditions Omake Books qui sera sur le mag le 27 novembre avec nous. Allez, nous on continue avec notre premier invité. On va parler de comment jouer à un ancien jeu PC mais sur les machines actuelles. On y va. Pierrick Edet, bonjour, ça va Pierrick?
Bonjour, ça
va. Alors Pierrick, vous êtes membre de Retro Taku, vous êtes un peu notre spécialiste PC, hein, voilà. On va essayer de voir avec vous comment on peut faire quand on veut jouer aujourd'hui sur nos machines récentes et modernes pour jouer aux anciens jeux. Est-ce qu'on peut les installer Pierrick? Est-ce qu'on peut y jouer encore?
Oui, il y a certains jeux qui sont tout à fait jouables directement sans utiliser aucun artifice. Par exemple, GTA qui est sorti en 97 est directement installable et jouable directement sous Windows 7 sans...
On fait rien quoi, on met le CD, on l'installe comme n'importe quel autre jeu et ça fonctionne direct.
Comme si on venait de l'acheter dans mon magasin, il y a aucun souci, il passe directement.
Alors que ça date de quand ça par exemple ce jeu-là?
1997.
Eh ben voilà, bon bah écoutez, il y a des choses bien faites des fois parfois. Alors quand ça marche pas directement, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors souvent quand c'est des jeux MS-DOS, là on n'a pas le choix, faut passer par un émulateur MS-DOS qui est très connu, DOSBox. Donc c'est un émulateur DOS qui permet de jouer à tous ces anciens jeux MS-DOS. Quasiment sans souci. Il y a même une version pour Linux, pour ceux qui sont aficionados de Linux. Donc on peut jouer à tous ces anciens jeux directement via cette magnifique outil qui est DOSBox.
Alors on peut le transporter, ça qui est bien, on le met sur une clé
oui,
USB.
C'est une version portable qui permet notamment de pouvoir jouer sur sa clé USB directement et de continuer ses parties où que l'on soit. par exemple la pause au midi, au travail, ou chez soi, ou chez les amis, on peut continuer où on veut. C'est vraiment pratique, la version portable.
Ah, un petit fichier à lancer, et puis on est bon, quoi.
Voilà, directement un exe depuis un USB, et ça tourne.
Alors, comment est-ce qu'on trouve tous ces logiciels, déjà pour faire fonctionner les jeux, et où est-ce qu'on peut trouver des jeux? Voilà, si on les a pas sur une brocante, est-ce qu'on peut les télécharger? Est-ce qu'il y a des sites où on peut trouver ces anciens jeux?
Oui, effectivement, il y a beaucoup de jeux sont devenus ce qu'on appelle abandonware, c'est-à-dire que les éditeurs ont abandonné tous les droits sur le jeu. Donc on peut les télécharger sur les sites tels que abandonwarefrance.org ou abandonware-utopia.com. On peut télécharger tout plein de jeux, ils sont triés par année, par style. Ils ont même inventé des versions abandonware faciles qui incluent directement le DOSBox, ce qui évite l'installation à la fois d'une DOSBox et du jeu. Là, c'est vraiment le package complet.
Ok, et là, on peut le faire facilement. Est-ce que c'est légal d'aller télécharger ces jeux? Est-ce qu'on a le droit de le faire? Voilà.
Disons que les jeux sont tellement...
Je vous ai posé une question piège. C'est pas grave, hein. Si vous n'avez pas la réponse, vous avez le droit de pas avoir la réponse, Pierrick. Mais d'un point de vue général, c'est vrai qu'on se pose parfois la question, voilà, ouais. Les ROM qu'on télécharge sur Internet.
Disons que les éditeurs ne peuvent plus rien espérer de ces jeux-là. Il y a même certaines sociétés qui ont sorti les jeux et qui n'existent plus. Donc là, plus personne ne peut revendiquer de droits ou quoi que ce soit, quoi.
Oui, c'est sûr que quand la société a disparu, là, on est encore plus tranquille.
Mais il existe certains jeux assez anciens qui ont encore des droits. Tel que Duke Nukem n'est pas encore abandonware. La société tient encore
à son pré-gardé. Il faut faire attention, quoi. Ouais. Voilà, on se renseigne et puis on regarde si on a le droit ou pas, quoi.
10 ans ou 20 ans, il y en a certains qui sont encore dans le domaine, on va dire, privé, commercial.
Alors, est-ce que vous auriez quelques jeux à nous conseiller, voilà, qui seraient encore très agréables à jouer aujourd'hui? Parce que c'est vrai, quand on parle de rétro gaming, on parle très, 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 très souvent de consoles de jeux, hein, un petit peu moins de jeux sur PC. Alors, est-ce qu'ils ont bien vieilli, ces jeux? Est-ce qu'on peut encore y jouer avec plaisir? On n'a pas trop mal aux yeux quand on allume un SimCity 2000 ou des jeux assez anciens?
Il y a certains jeux qui n'ont pas vieilli, effectivement. SimCity 2000, ça n'a pas du tout vieilli. C'est toujours autant. Toujours autant intéressant.
Alors SimCity, on le rappelle, hein, c'est un jeu où on construit une ville. Hein, c'est ce qui a été à l'origine des Sims et de plein d'autres jeux après.
À l'origine de tout ça. Ouais. Et c'est vrai que depuis SimCity 2000, est graphiquement un effet 3D qui est vraiment très très sympa, qui est toujours agréable à jouer. Pareil, GTA, ça n'a pas très vieilli le premier. Bon, la vue de dessus peut déconcerter certains, mais...
Ah oui, je l'ai retesté l'autre jour, c'est quand même bien différent. C'est un jeu qui a bien, bien évolué. Hein. On est au 5 aujourd'hui, oui. Mais alors, oui. Du 1 au 5, là, il y a un sacré... Voilà, mais le plaisir peut être là quand même.
Oui, oui, le plaisir est toujours là.
Ouais. Si vous avez joué à GTA 5 sur une console récente, n'hésitez pas à aller chercher le 1 sur un PC, vous serez assez surpris. En tout cas, vous pourrez peut-être passer un bon moment quand même, mais c'était la base, en tout cas.
GTA 1, le premier du nom est maintenant devenu abandonware et même directement téléchargeable directement sur le site de l'éditeur Rockstar. Il propose le 1 et le 2 gratuitement maintenant.
Ah d'accord, donc on peut le télécharger. Et là, du coup, quand on le télécharge, c'est fait pour être installé sur des machines récentes. J'imagine que c'est des packages qu'on peut installer
un petit peu modifié pour que ça passe sans souci. Bon. C'est complètement légal puisque c'est l'éditeur qui le propose directement.
Et là, pour le coup, voilà. Encore quelques jeux, qu'est-ce que vous auriez à nous conseiller si on veut jouer un petit peu et redécouvrir ces jeux à PC?
Après, moi, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était jeu de voiture. Donc, il y a Diff Rally, qui est vraiment très, très sympa. Après, si on veut se faire un coup de nostalgie, il y a le Pac-Man, du Invaders. Il y a évidemment sous DOSBox qui marche aussi très bien.
Alors, si je récapitule, une DOSBox, télécharger le jeu facilement. Et puis, on peut rejouer à tous ces jeux-là, quoi.
Oui, très facilement, il n'y a pas de souci, quoi.
Bon, bah merci Pierrick. Plus d'infos bien sûr, hein, sur le site de Retrotaku, retrotaku.com. Nous on fait une petite pause musicale, on va découvrir The Other Day. La chanson s'appelle The Singer, vous allez voir, ça va vous rappeler quelque chose. C'est composé, allez, je vous dis pas avec quoi ils l'ont fait parce qu'on les aura juste après au téléphone, ils vont nous expliquer comment c'est fabriqué tout ça. The Other Day, The Singer. Et voilà, c'était The Other Days. Alors, ils sont avec nous, les deux compositeurs de The Other Days. Ça va, les gars ?
Salut, ça va ?
Alors, salut. Eric et Yves, alors vos noms de scène, hein, Sibérique et YV2149. C'est un peu plus compliqué à dire, alors si on peut rester sur Eric et Yves, moi ça me va. Hein.
Ouais,
on va faire ça.
Alors, on vient d'entendre un de vos morceaux. On avait entendu un là, dans le premier numéro du mag, d'ailleurs, Snakebeat. Alors, je vais d'abord vous saluer en disant que c'est vous qui avez créé le générique de cette émission et puis les illustrations sonores. Donc, merci déjà d'une première part. Vous l'aviez fait aussi pour le JT du rétro gaming de l'association. Et là, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse découvrir un peu votre travail. Une des choses qui pourra, je l'imagine, surprendre nos auditeurs, c'est la manière dont vous composez ces morceaux. Alors, ce morceau qu'on vient d'entendre, vous l'avez composé avec quoi ?
Eh bien, en fait, on l'a composé avec une Game Boy. Voilà, celle de 1989, le premier modèle.
Une Game Boy, donc vous arrivez à faire de la musique avec une Game Boy. Alors, Kezako, comment on fait de la musique avec une Game Boy ? Parce que ça ne me paraît pas évident d'emblée, moi, de faire ce que je viens d'entendre avec une Game Boy.
En fait, il y a un programme spécial qui s'appelle LSDJ. Et qui sert à faire de la musique, justement. Donc, il faut acheter une petite cartouche sur laquelle tu peux transférer ce programme. Et ensuite, tu la mets dans ta Game Boy, et puis t'as le programme qui se lance, et là, tu peux écrire les notes, t'as un synthé, enfin, t'as un séquenceur. Bon, après, c'est un peu compliqué, si tu veux, on peut rentrer dans les détails, mais disons qu'il faut acheter juste un tout petit peu de matériel.
Mais est-ce qu'on modifie la console, en fait ? Est-ce qu'on lui rajoute des trucs, des cartouches, ou juste on la démonte ? Comment ça se passe ?
Non, en fait, pour commencer, on achète juste une carte vierge. C'est des cartes qui se trouvent un peu partout sur eBay ou même dans des boutiques spécialisées. Et puis, elle se branche en USB au PC et puis on transfère le programme qu'on récupère par Internet. Ce programme s'appelle LSDJ. Et ce programme, on le copie par USB dans la cartouche Game Boy vierge, et puis après, on met cette cartouche dans la Game Boy. Donc, après, si on veut faire des modifications pour améliorer la qualité du son, effectivement, on peut être amené à modifier la console elle-même.
Voilà. Ou est-ce que vous le retravaillez après sur un ordinateur, ou est-ce que pas du tout ? C'est vraiment l'idée d'être puriste, on va dire, si je peux dire, et de tout faire sur une console des années 80 ?
En fait, ce morceau-là, il y a eu la version Pro Sound, c'est-à-dire qu'on avait modifié la Game Boy de façon matérielle pour que le son soit un peu meilleur. Mais en fait, on l'a pas du tout retouché à l'ordinateur. Enfin, on a juste amplifié, mais simplement quoi.
Voilà, juste pour finaliser les niveaux, etc. Quoi.
Voilà, c'est ça. C'est juste une mise à niveau CD, on va dire. Mais en termes d'enregistrement, il y a aucun traitement. C'est un enregistrement brut. Ouais. De la sortie de la Game Boy qui, elle, est modifiée pour que le son soit meilleur.
Alors, à la base, vous êtes quoi ? Vous êtes rétro gamer, vous êtes musicien, les deux. Qu'est-ce qui vous a pris, en fait ? Parce que c'est pas si courant que ça, même si vous dites qu'on peut le faire facilement, de composer sur des Game Boy.
En fait, on va dire qu'il y a un background quand même assez important sur la culture informatique et sur les matériels qu'on a vus depuis notre tendre enfance. Donc, c'est venu du fait que quand on était plus jeune, on était surtout sur des plateformes comme l'Atari, ST, et que le truc qu'on adorait, c'était lancer des jeux ou voir des cracks trop, des démos, et juste écouter et se souvenir de la musique. Donc, ça a commencé comme ça, en gros.
Et il faut dire qu'on se connaît aussi depuis pas mal de temps, parce que c'est nos parents qui se connaissaient, en gros. Donc, on a commencé assez jeune. Nos parents aimaient bien, enfin, surtout nos pères, ils avaient... pas mal d'ordinateurs, et était un peu dans cette culture-là, donc on a été bénis assez tôt. Et donc, au départ, on est arrivé quand même à l'informatique par le jeu, mais après, on en a quand même fait notre métier, donc on est tous les deux ingénieurs, dans des domaines différents, quoi. Mais donc, on est nostalgique de rétro-gamer, et puis au niveau de la musique, on s'y est mis petit à petit à faire un peu de musique, chacun de son côté, après un peu de mix, des platines, tout ça, et puis, en fait, on a pu mélanger les deux, en fait, avec la Game Boy. Ça mêlait le côté rétro et le côté musical.
Alors, ce qui est marrant, c'est que là, c'est vrai que la dernière fois, on a vu Snakebeat. Alors, si je dis pas de bêtises, pardon, c'est un morceau complètement original, celui qu'on avait entendu il y a 15 jours. Mais là, c'est un clin d'œil, clairement, ce qu'on vient d'entendre, The Singer. Alors, pourquoi reprendre une chanson connue ? C'est le clin d'œil, justement ?
Absolument, c'est-à-dire qu'en fait, dans notre discographie jusque-là, il y a pas mal de reprises, parce que ce sont des musiques qu'on affectionne. C'est vraiment pour dire que, d'une part, on fait ça parce qu'on aime bien le son chiptune, et d'autre part, on fait ça parce que ces musiques-là, qu'on reprend, elles doivent certainement parler aux gens de notre génération, en fait, les gamers des années 80, 90.
Donc, alors, puisqu'on parle de génération, soyez précis, vous êtes de quelle génération? Vous avez quel âge environ, les gars?
On a un peu plus de 30 ans.
Voilà, vous êtes des trentenaires, les fameux trentenaires rétro-gamers. Bon, bah très bien.
Absolument, on est complètement dans ce cœur de cible.
Voilà, on est plein dans le cœur de cible, et on sait très bien que le rétro-gaming va bien au-delà de cette génération, mais voilà, vous êtes la génération qui a grandi avec les machines, on va dire quand même.
Absolument, ouais.
Alors, vous avez décidé... alors, si, j'ai une question, parce que vous avez parlé de son chipsé il y a un instant, là, je n'arrive même pas à le dire, son chipsé. Ça veut dire quoi, ça? C'est ce son d'ordinateur, justement, de console?
Le son chiptune.
Oui, chipsé, non, c'est pas ça que vous avez dit il y a un instant? Vous aimiez ce son chipsé?
Ouais, je sais pas, peut-être. Vous voulez dire la chiptune, en fait.
Chiptune,
chiptune, voilà. Ben voilà, mais j'avais pas bien compris. Ben voilà, justement. Chiptune, ça veut dire quoi?
La chiptune, en fait, c'est vraiment le son que faisait authentiquement chaque machine de l'époque. Et du coup, elles avaient du matériel différent pour faire ça. Donc, ce qui est fantastique, c'est que chacune d'entre elles est reconnaissable à l'oreille.
C'est la signature vocale d'une console, en fait.
Tout à fait. Ça y est. Leur synthétiseur à elles.
J'ai compris. Eh, comme quoi on y arrive quand on m'explique doucement. Oui, parce qu'en fait, en fonction de la machine, techniquement parlant, hein, il y avait une sonorité qui n'était pas la même, quoi.
Voilà, c'est ça. Au-delà de l'aspect jeu, il y a quand même un synthétiseur sonore et toute notre énergie, c'est de mettre à profit vraiment de faire sonner ces synthétiseurs sonores sur la Game Boy et sur d'autres plateformes aussi.
Alors, on va terminer avec la Game Boy. Pourquoi la Game Boy déjà en premier? Parce qu'on va voir que vous allez travailler sur d'autres machines maintenant, mais pourquoi avoir choisi la Game Boy au départ?
Ce qui est super pratique, c'est que déjà, c'est transportable. Hein. Il y a la Game Boy Pocket qui rentre vraiment dans la poche. Et donc, moi, par exemple, j'en fais vraiment dans le métro. Le soir, enfin, je peux en faire à peu près n'importe quand. Ça dépend. Parfois, il faut un éclairage. Ça dépend de quel Game Boy j'utilise. Mais t'as vraiment tout l'instrument qui est tout le temps sur toi. Donc voilà, quand t'as une idée d'un morceau, c'est super simple à prendre. Et puis voilà, t'as pas un truc à brancher, à te mettre devant ton écran. C'est simple et en même temps, vu que c'est simple, c'est facile de s'y mettre. Quoi. Donc faut persévérer au départ. Mais c'est limité en un sens, mais en même temps, ça permet de s'y mettre assez facilement. Enfin, faut un peu persévérer. Et surtout qu'on a reçu une formation en fait par Spintronic, ouais, à la Maison Pop par Spintronic, qui est aussi dans la scène chiptune française. Et c'était une formation d'initiation à LSDJ, le logiciel qu'on utilise justement. Donc voilà, on a été.
Vous êtes lancé comme ça. Mais je sais que mon petit doigt m'a dit que vous vouliez aussi maintenant travailler sur d'autres machines. Alors lesquelles en fait et pourquoi?
Alors lesquelles? Pour ceux qui nous écoutent et qui savent ce que c'est, on est vraiment une sortie très bientôt le 3 novembre sur un label qui s'appelle Coucou. Coucou, c'est un net label. Et on va avoir une sortie d'une reprise d'un morceau des années 70 de Giorgio Moroder et on l'a fait sur Game Boy, sur Commodore 64 et sur Mega Drive.
Ah, excellent. Donc là, vous avez mélangé les différentes machines pour avoir des sons encore plus complets, en fait.
Voilà. Et le pourquoi, c'est parce qu'on est en train de réconcilier dans nos têtes toutes ces sonorités. Elles jouent toutes en même temps, alors qu'on les a rarement entendues jouer en même temps dans l'histoire des jeux vidéo. Donc,
c'est sûr que mélanger Nintendo avec Sega, ça, c'est sûr qu'il faut. C'est que maintenant, on peut le faire.
Voilà,
à l'époque, c'était pas trop jouable. Hein.
Voilà, donc là, on est en train d'apprivoiser un peu chaque machine.
Vous réécrivez l'histoire, là.
Et ses propres techniques. Donc, voilà.
Bon, alors, c'est quoi les prochains projets à part cette sortie du 3 novembre, alors, du coup? Les prochaines optiques de travail.
On va faire la BO, une partie de la BO d'un jeu qui s'appelle 8-Bit Runner, qui va sortir sur plusieurs plateformes, mais on n'a pas trop de précision sur les plateformes précises pour l'instant, donc ça va être la BO d'un jeu. On a un clip qui est en cours aussi, en cours de...
Un vidéoclip.
Voilà, un vidéoclip.
Un vidéoclip donc de votre musique, parce que c'est vrai que vous faites de la musique inspirée des jeux vidéo, mais pour l'instant vous n'avez pas fait de musique de jeux vidéo.
Non, mais justement c'est en cours.
C'est en travaux, ça c'est en travaux.
Avec 8-Bit Runner. Donc un clip vidéo. Qu'est-ce qu'on a après réconcilier des machines, essayer de les apprivoiser un peu, et puis on travaille aussi pour faire un live, pour pouvoir jouer en live, parce que c'est assez compliqué, c'est pas du tout le même bloc que.
Jouer en live toujours avec les Game Boy alors.
Voilà, c'est ça.
Ah, là, c'est
peut-être avec
costaud,
d'autres trucs, mais l'outil principal de contrôle, je pense, ce sera plutôt la Game Boy effectivement en live.
Bon, eh bien, écoutez, de beaux projets. N'hésitez pas à nous tenir au courant hein, sur Retro Kaku. On donne votre site internet, je vous laisse le dire, les garçons.
Eh bien, c'est facile, c'est
theotherbase.net. Oh, ils sont formidables, ils font en stéréo, c'est normal pour des musiciens. Merci beaucoup, messieurs. À très, très bientôt. Puis on suit votre actu, bien sûr, sur retrotaku.com. À bientôt et bonne fin de journée. Allez, les auditeurs du MAG, on reste ensemble parce que là, on explique un mot du rétro gaming, de l'univers du rétro gaming. Et ce soir, c'est le mot cartouche.
La cartouche est pour le néophyte l'ancêtre du CD ou du DVD qui est massivement répandu dans les consoles de salon d'aujourd'hui. Le concept a été repris dans certaines consoles récentes, à la différence près que les jeux n'étaient pas stockés sur de la mémoire flash comme aujourd'hui, la mémoire des clés USB par exemple, mais massivement sur des ROM ou des EPROM, la mémoire d'antan. Ces petits concentrés d'électronique qui étaient réputés pour leur solidité à toute épreuve ont été abandonnés au profit des disques numériques qui ont un coût de fabrication moins élevé à quantité de mémoire équivalente. Les plus anciens d'entre vous se souviendront sûrement de longues soirées à souffler sur nos cartouches pendant des heures pour retirer la poussière pouvant empêcher les jeux de se lancer.
Allez, voilà, c'était notre docteur rétro-dico, voilà, pour apprendre le rétro-gaming. Je vous remercie de nous avoir suivis pour ce numéro 2 du MAG du rétro-gaming. On était sur Radio Alpa 107.3 FM au Mans. Si vous souhaitez avoir de l'info sur le rétro-gaming, vous pouvez bien sûr vous rendre sur le site internet de l'association RetroTaku, www.retrotaku.com. C'était Jean-Christophe K. Et je vous dis, moi, à mercredi dans 15 jours, 18h30 sur Radio Alpa. Bonne fin de journée. Ciao.